Oui, est-ce que vous voudriez d'abord vous présenter peut-être? Oui, nous savons que tu viens du Sénégal, mais d'où venez-vous exactement?
Voilà, je m'appelle Paul Mamba. Je suis évêque depuis 2 ans et je viens du Sénégal, plus précisément la région sud, la Casamance.
Oui.
Et j'habite la ville de Ziguinchor. Voilà.
Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir prêtre?
J'ai choisi de venir prêtre pour mieux servir l'Église et les fidèles par ce ministère du prêtre.
Et comment s'appelle votre diocèse?
Mon diocèse s'appelle Ziguinchor. Peut-être que je vais écrire ça tout à l'heure parce que c'est un peu compliqué.
Est-ce qu'il y a aussi d'autres religions au Sénégal?
Oui, au Sénégal, la plus grande religion, c'est l'islam. Ils sont à 80%. Les chrétiens sont 13%. Et les gens de la religion traditionnelle sont à 3%.
Est-ce que vous pourriez parler du rapport entre l'islam et le christianisme au Sénégal et aussi de l'importance de la religion en général dans la société sénégalaise?
Voilà, au Sénégal, donc, comme je vous ai dit, le pays à majorité musulmane, parce que l'islam est arrivé au Sénégal au 11e siècle, avant l'arrivée du christianisme, qui est arrivé au 19e siècle. Et comme nous avons eu la chance d'avoir un président, le premier président, après l'indépendance, le premier président était chrétien. Donc, il a essayé de cultiver de bonnes relations avec l'islam, les chefs religieux. Et c'est ce qui nous a valu aujourd'hui que dans notre pays, il y a une bonne cohabitation entre l'islam et le christianisme. Surtout que l'Église a travaillé à l'éducation en général de tous les Sénégalais sans discrimination. La plupart de nos écoles reçoivent beaucoup d'enfants musulmans parce qu'ils sont plus nombreux. Donc c'est un lieu de dialogue et de connaissance mutuelle qui favorise la cohabitation entre les chrétiens et les musulmans.
Oui.
Voilà.
Alors, comment est-ce que vous célébrez une messe au Sénégal? Est-ce que c'est toujours en français ou aussi dans les autres langues africaines?
Bon, la religion, la langue officielle, donc dans l'administration, c'est le français. Donc, dans les grandes cérémonies qui rassemblent plusieurs communautés, plusieurs religions, plusieurs ethnies, on célèbre en français. Mais sinon, dans les petits villages, on célèbre en langue locale. On célèbre en wolof. Le wolof, c'est la langue qui est parlée, la langue africaine qui est parlée partout au Sénégal, et on célèbre avec ça aussi quand c'est des rassemblements qui regroupent tout l'ensemble des populations.
Et en quoi consiste votre travail comme évêque? Est-ce que le contact avec les gens, jeunes, par exemple, est très important pour vous?
Oui, le travail de l'évêque, c'est d'animer, de rassembler toute la communauté chrétienne. Bon, élargie aussi à d'autres communautés parce qu'on est au service de tous les hommes. Alors, pour nous, l'Église est très jeune au Sénégal. Donc, la jeunesse est très importante dans notre travail d'évêque parce qu'il faut préparer et le présent et le futur. Parce que c'est eux qui, demain, vont être les adultes qui vont porter l'Église. Donc, on travaille à ce qu'ils soient de bons chrétiens, des gens engagés dans l'Église et dans la société, parce que c'est eux qui feront demain l'Église, mais aussi le pays. Donc c'est très important ce que nous faisons pour les jeunes.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer le grand succès du catholicisme au Sénégal et dans les autres pays africains en général?
Alors, la place du christianisme chez nous, au Sénégal, son importance parce qu'il s'est beaucoup investi dans la pastorale sociale, étant donné que nous sommes une société à majorité musulmane. Donc on a développé l'éducation, on a développé aussi les services sociaux par la Caritas, donc le service des pauvres, surtout le service de l'eau, parce que chez nous, on n'a pas l'eau comme ici. Il y a certaines parties où il pleut très peu. Il pleut 4 mois au Sénégal, et dans certaines régions, très peu. Donc, il y a des communautés qui manquent d'eau, et la Caritas travaille à donner de l'eau aux populations. Ensuite, les services de santé. Vous, ici, le pays, peut-être c'est facile de se soigner, mais dans notre pays, ce n'est pas partout qu'on a accès aux soins de santé primaire. Donc, l'Église a investi avec les religieuses pour créer des petits dispensaires pour donner à nos populations la possibilité de se soigner. Donc, on a travaillé. C'est ce qui fait que l'Église est très appréciée et mieux connue sous cet angle-là de la pastorale sociale dans l'Église et dans la société.
Ah oui, et est-ce que tous les enfants ont la possibilité d'aller à l'école, aussi ceux qui n'habitent pas proche d'une école, peut-être?
Au début, c'était dur parce que l'islam a sa manière d'instruire ce qu'on appelle chez nous l'école coranique. La plupart, avant que l'école française n'arrive, les gens allaient dans l'école coranique pour apprendre la religion. Bon, dans certaines communautés, ça continuait et l'école française a eu du mal à s'installer. Et par exemple, la partie où il y a beaucoup de chrétiens, l'école est presque obligatoire. C'est plus facile d'aller à l'école. Parce que l'Église s'est investie dans l'éducation. Et la plupart des cadres que nous avons dans notre pays sont passés dans nos écoles privées catholiques comme la vôtre ici. L'école est très importante chez nous. Bon, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à l'école parce que il faut un minimum de moyens. L'école que nous proposons, l'Église propose, c'est une école qui fait payer. Parce que l'État donne seulement une subvention pour payer les enseignants. Donc, on est obligé de demander aux parents de participer un peu pour l'éducation. Bon, l'Église fait attention pour que les pauvres aussi puissent avoir accès à l'école. Là, on fait des réductions, on demande des bourses pour qu'ils puissent s'instruire, les pauvres qui n'ont pas les moyens. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va à l'école. Il y a l'école publique et l'école privée. Et bon, il y a un petit niveau, un dénivellement, parce que l'école publique n'a pas les mêmes performances que l'école privée catholique. Voilà.
Oui. Et quelle est la situation des jeunes qui, dans notre pays, peuvent, par exemple, apprendre des beaux métiers ou peuvent faire des études ou aller à l'étranger? C'est possible?
Bon, chez nous, contrairement à vos pays, il y a une disparité entre les garçons et les filles. Parce que la mentalité traditionnelle disait que, bon, la fille doit rester à la maison pour s'occuper du foyer, pour s'occuper des enfants, et le garçon doit avoir un travail pour entretenir la famille. Ce qui fait qu'au départ, pour l'école, on privilégiait les garçons. C'est comme ça que les garçons étaient plus scolarisés que les filles. Maintenant, les choses sont en train de changer parce que, avec les changements, on sait qu'une fille aussi peut travailler pour entretenir la famille, pour accompagner les enfants, etc. Donc, le niveau des filles qui vont à l'école a beaucoup augmenté. Et on a vu qu'elles sont aussi intelligentes que les filles. Les garçons, sinon même plus. Alors, bon, les gens commencent maintenant à les inscrire. Bon, il y a dans certaines communautés où elles font l'école primaire et ne continuent pas à l'université. Soit parce que, bon, elles doivent aller se marier, dans certaines sociétés, il y a encore la mentalité, ou bien parce que, bon, il y a eu un enfant, etc. Donc, c'est un peu cette situation-là.
À votre avis, quel est le problème principal dans votre pays, peut-être?
Par lié aux filles, aux
Non,
blessures.
le problème principal peut-être les maladies.
Bon, il y a ce qu'on peut appeler le sous-développement. Le pays n'est pas industrialisé comme vos pays ici. On est encore en train de travailler pour sortir du sous-développement. C'est le premier facteur qui fait que beaucoup de choses ne peuvent pas se faire. Parce qu'on n'a pas la même organisation, les mêmes moyens pour que chacun puisse accéder à la facilité de la vie, au confort, etc. C'est le plus grand problème. Tout le monde ne peut pas bien se soigner, tout le monde ne peut pas aller à l'école comme ici, tout le monde ne peut pas manger à sa faim, etc. etc. C'est ça qui est le problème.
Alors, quels sont vos projets d'avenir et quels rêves souhaitez-vous réaliser, peut-être?
Bon, ça dépend à quel niveau, moi-même ou bien...
En général, vous-même ou...
Bon, comme avec, je veux que la plus grande, la majorité puisse connaître le Christ. C'est ça mon engagement. Et donc, il faut favoriser l'éducation. Il faut favoriser l'éducation de tout le monde, des jeunes surtout, puisque bon, les adultes sont déjà vus, mais les jeunes, on puisse éduquer tout le monde. C'est à l'école qu'ils soient catéchisés pour ceux qui sont chrétiens, et qu'ils puissent s'engager à prendre en charge et la société et la communauté chrétienne, etc. C'est mon plus souhait pour l'avenir.
Est-ce que vous allez venir encore une fois en Allemagne ou dans les prochaines années?
Oui, certainement, oui, certainement. La dernière fois que je suis venu, ça fait 7 ans, 2007. Cette année, je suis venu parce que il fallait renouer les contacts avec nos partenaires, nos amis d'ici qui nous aident à accompagner notre travail. Et certainement, d'ici 5 ans, je reviendrai en Allemagne. Oui. J'ai des amis ici aussi.
Oui. Voilà. Merci beaucoup pour
l'interview. Je vous en prie, merci.
C'était très intéressant.
Vous parlez bien français, vous.
Merci.
Je vous aussi remercie d'être venu.
Merci, c'est merci.
C'est agréable de vous rencontrer.
Merci, merci. Est-ce que tout le monde comprend un peu ce qu'on a dit?
J'ai encore une question.
Oui.
Quelle est votre langue maternelle?
Ma langue maternelle, c'est le Djola. Je vais vous écrire ça.